Cher Thomas, chère Marine, chers amis, famille, qui êtes venus entourer les fiancés de votre présence et de votre affection, il est important de porter un regard sur les lectures que les fiancés ont choisies et que vous retrouvez dans vos carnets. En effet, lorsque nous avons préparé ensemble cette célébration et de façon générale toute la messe de mariage, j'ai suggéré aux fiancés qu'ils choisissent des lectures qui soient des lumières pour leur vie matrimoniale et familiale. La parole de Dieu, nous le savons, n'est pas une parole humaine, mais une parole qui est vivante et qui nous accompagne. Et selon les circonstances de notre vie, nous pouvons la recevoir de façon différente, que nous soyons dans l'épreuve ou dans la joie, que nous soyons dans la tristesse ou l'allégresse. La parole de Dieu nous parle. Et ces paroles que Thomas et Marine ont choisies leur parlent aujourd'hui, mais aussi nous parlent à nous, et en particulier à ceux d'entre vous qui ont choisi de vivre la vie de couple. Soyez toujours dans la joie. Laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie, nous dit l'apôtre saint Paul dans la première lecture. C'est important de se redire que le témoignage de l'amour, c'est la joie. Et la joie que vous pouvez témoigner, Thomas et Marine, d'être ensemble. C'est ça qui, de façon claire et nette, va témoigner auprès de vos proches et de vos amis que vous vous aimez. D'une certaine manière, la joie, c'est le retentissement de l'amour, la surabondance de l'amour. Et cette joie-là que vous voulez vous témoigner les uns l'un en face de l'autre, vous comme époux, futur époux, et nous comme baptisés, eh bien cette joie-là, elle est témoin du Seigneur. Pourquoi c'est si important que l'apôtre saint Paul le redit par deux fois? C'est parce que peut-être nous nous laissons aller à la tristesse, nous nous laissons aller au découragement, nous nous laissons aller à une forme de désespérance parce que, au fond, à quoi bon changer, à quoi bon s'engager? L'autre ne changera pas et nous transformons l'autre, peu ou prou, en une liste de défauts à force de vie commune et nous perdons la joie d'être ensemble. Comme il est important que nous puissions redécouvrir cette joie d'être ensemble, comme communauté chrétienne, comme couple Thomas et Marine et comme famille ensuite, parce que c'est comme cela que vous témoignerez du Seigneur. C'est vraiment dans cette allégresse, dans cette joie qui n'est pas une joie béate, qui ne fait pas fi des difficultés de la vie ensemble. Moi-même qui suis religieux et vis en communauté avec d'autres frères que je n'ai pas choisis, à la différence des couples qui se sont choisis l'un l'autre, je vois bien que la vie commune est difficile. Cependant, je crois aussi que le fait de vivre ensemble dans la joie est un signe de l'Évangile. Dans notre règle de vie, comme serviteur de Jésus et de Marie, dans ma communauté, on fait profession sur une règle de vie, et il est dit à un moment donné un passage qui me touche beaucoup, et qui dit la chose suivante. « Pour rapprocher les hommes les uns des autres, nous choisissons de vivre en communauté. » Au fond, la vie du couple qui vit dans l'allégresse et dans la joie, c'est un signe qui rapproche les personnes humaines les uns des autres. Qui dit que la vie ensemble est possible? Et la vie ensemble comme différents hommes et femmes, évidemment, différents d'éducation, différents de cheminement. Et Thomas ou Marine, vous avez bien sûr beaucoup de points communs, nous l'avons souligné dans la célébration, mais en même temps un certain nombre de différences, comme il est normal d'avoir. Eh bien, vous vous dites, nous choisissons de vivre une vie commune dans la joie. Même avec nos différences, nous croyons que c'est possible. Mais nous croyons que c'est possible non pas par nos forces et uniquement par nos psychologies plus ou moins blessées, plus ou moins équilibrées, mais que c'est possible devant le Seigneur, par la grâce du Seigneur. Et c'est pour cela que Thomas et Marine sont devant l'autel du Seigneur, parce qu'ils veulent dire devant l'Assemblée qu'il est possible de s'aimer et qu'il est possible d'être dans la joie et de s'accueillir tel que l'on est et que cet accueil tel que l'on est de la part du Seigneur nous donne une allégresse et nous réjouit. C'est un premier point. Et vous qui peut-être êtes déjà en couple ou marié ou qui éventuellement avez reçu le sacrement du mariage, comme il est bon aussi que vous puissiez vous rappeler que vous choisissez d'être témoin de la joie. Témoin de la joie du Seigneur qui vous a appelé, parce que la vie matrimoniale est un véritable appel, comme la vie religieuse est un appel, eh bien vous avez été appelés, Thomas et Marine, à fonder un foyer et plus tard une famille. Mais cet appel du Seigneur, c'est d'abord un appel au bonheur et c'est d'abord un appel à la joie. C'est important pour notre monde qui a une certaine, parfois, tristesse, a une certaine, comment on pourrait dire ça, aquabonisme. L'aquabonisme, ça veut dire quoi? À quoi bon faire des efforts? À quoi bon être agréable? À quoi bon s'engager? Eh bien, nous disons, nous, que non. Le fait de s'engager, le fait de s'aimer l'un l'autre, ça a une valeur en tant que telle, parce que ça redonne l'espérance. Ça redonne une espérance que la vie ensemble, la vie commune, est possible. Avec nos fragilités, bien sûr, nous ne sommes pas exempts de défauts, nous ne sommes pas exempts de difficultés, et de nos psychologies blessées nous rappellent bien aussi que, voilà, nous avons aussi acheminé, et avec Thomas et Marie, durant cette préparation au mariage, nous avons souligné aussi les points d'effort qu'ils ont à faire pour que leur vie commune soit encore plus rayonnante. Et ils les ont accueillis parce que, évidemment, la vie commune demande une conversion, demande une conversion du cœur, de transformer notre cœur de pierre en cœur de chair. Alors oui, c'est vrai que nous avons des efforts à faire pour vivre ensemble et témoigner de la joie, mais nous croyons que c'est possible. C'est ça l'important. Nous croyons que c'est possible. C'est possible par la grâce de Dieu, non pas par nos forces humaines, mais c'est possible de témoigner de la joie, hommes et femmes, unis pour toujours. Et toujours veut dire longtemps, d'autant plus que la durée de vie s'allonge largement, et donc lorsque vous vous engagez, cher Thomas, chère Marine, j'allais dire, vous en prenez au bas mot pour 50 ans, et donc du coup, de certaine manière, vous dites, ben ouais, mais nous croyons que c'est possible. Ils nous disent ça, Thomas et Marie, nous croyons que c'est possible que pour les 50 prochaines années, jusqu'à ce que la mort nous sépare, eh bien, nous puissions être dans la joie. Vous voyez le défi que c'est pour chacun d'entre nous. Vous voyez l'enjeu que c'est pour chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que ça nous fait du bien de vous voir, Thomas et Marine, aujourd'hui dans cette église, parce que ça nous renvoie nous-mêmes à nos engagements, que ce soit des engagements de couple, engagement dans la vie sociale, la vie économique, engagement dans la vie religieuse, eh bien, ça nous renvoie à nos engagements de dire « Oui, c'est possible d'être dans la joie sur la durée. » Sur la durée. C'est vrai que la durée, c'est parfois ce qui émousse l'amour, ce qui émousse les plus grands émerveillements, ce qui flétrit les plus grandes action de grâce. Eh bien, au contraire, l'apôtre saint Paul nous dit « Le Seigneur est proche, ne soyez inquiets de rien. » Alors on me dit « Mais c'est l'apôtre saint Paul. » L'apôtre saint Paul, il devait planer un peu, il n'était pas au courant des réalités de ce bas monde. Eh bien non, là, le cher apôtre saint Paul ne planait pas, comme vous pouvez le penser, puisque lui-même a vécu une vie commune, et avec l'apôtre saint Pierre, ça se fritait un petit peu, quoi, entre les deux, Saint-Pierre et Saint-Paul, pour saint qu'ils soient, eh bien, ils étaient un peu en désaccord sur un certain nombre de points, à tel point qu'il y a eu le premier concile de Jérusalem pour savoir est-ce qu'il fallait recevoir la circoncision, est-ce qu'il fallait suivre la loi juive, ne pas manger les viandes impures et compagnie. Voilà, ils étaient pas en accord. Mais ils disaient, ne soyez inquiets de rien, le Seigneur est proche. Qu'est-ce qui différencie l'homme et la femme de foi, de l'homme et la femme qui n'ont pas la foi? Qu'est-ce qui les différencie? Non pas qu'ils fassent des bonnes choses, parce qu'on peut faire des bonnes choses en ayant la foi ou ne pas l'avoir. Mais ce qui les différencie, c'est la confiance. Thomas et Marine, vous nous dites aujourd'hui l'importance de la confiance dans nos vies, dans vos vies à vous. Vous ne savez pas de quoi l'avenir sera fait. Vous avez quelques perspectives au plan professionnel, bien sûr, vous avez des engagements, mais en même temps, dans 20 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, qui peut dire ce que sera votre couple? Eh bien, vous nous dites, ne soyez inquiets de rien. Non pas parce que nous ne sommes pas au fait des réalités, des difficultés de couple et malheureusement des échecs, mais parce que nous croyons que le Seigneur est proche et qu'il nous accompagne et qu'il est près de nous et qu'il nous soutient. C'est ça, avoir la foi. Avoir la foi, c'est avoir la confiance. C'est faire confiance à quelqu'un qu'on appelle le Seigneur, pour ceux qui croient, à quelqu'un qui est plus grand que nous et nous emmène plus loin que nous-mêmes. Alors oui, c'est un défi. La confiance, c'est toujours un défi. C'est toujours une manière aussi de se mettre sous le regard du Seigneur. Et pour vous qui, peut-être, avez reçu un jour le sacrement du mariage, ou souhaitez le recevoir, ou souhaitez vivre une vie de couple stable et fidèle, eh bien, vous vous dites, comme c'est important aussi de faire confiance, de se remettre dans les bras du Seigneur, de dire, ben, Seigneur, ce couple que nous formons ou que nous voulons former, eh bien, nous te l'offrons. Non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. Ici, Thomas et Marie ne sont pas meilleurs que nous et nous meilleurs qu'eux. Ils sont juste là, dans une démarche de foi, nous rappelant l'essentiel de la vie, que l'amour, s'il est dans une source de joie, est aussi source de joie parce qu'il choisit de faire confiance. Il ne se préoccupe pas. Une chose, c'est s'occuper d'eux. Oui, vous vous occupez de votre vie professionnelle, de vos engagements, de la pharmacie qui a été achetée, de l'engagement dans l'expertise comptable, etc. Bon, vous occupez comme adulte responsable, et c'est tout logique. Mais vous ne vous préoccupez pas. Une chose, c'est s'occuper d'eux. Autre chose, c'est se préoccuper d'eux. C'est pas du tout pareil. Se préoccuper d'eux, ça veut dire qu'on est dans l'angoisse. On s'occupe d'eux, ça veut dire qu'on est des adultes responsables. La confiance, c'est dire comme adulte responsable, la plus grande responsabilité, c'est me remettre face au Seigneur. Et la plus grande irresponsabilité, c'est mettre de côté la vie spirituelle. Ça, c'est être irresponsable. Très clairement, irresponsable. Parce que pourquoi c'est être irresponsable? Parce que c'est faire confiance qu'en ses propres forces. Or, nous le savons, nos propres forces sont très limitées. Nos psychologies sont blessées. Notre confiance va et vient. Notre joie est au rendez-vous ou pas. Alors, oui, nous voulons, à travers cette lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens, redire le Seigneur est proche, et Thomas et Marie nous le redisent, les uns pour les autres, nous voulons nous le redire, le Seigneur est proche de chacun, d'où que vous veniez, au plan de vue spirituel, où que vous soyez dans votre vie de foi, ou pas de vie de foi, je ne sais pas, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, mais je vous dis, au nom de l'apôtre saint Paul, le Seigneur est proche de chacun. Et c'est parce qu'il est proche de chacun d'entre vous, que vous ayez la foi en lui ou pas, c'est parce qu'il est proche de chacun que vous n'êtes inquiet de rien, que vous vous remettez comme l'enfant dans les bras de sa mère, comme dit le psaume. Alors oui, nous voulons chanter cette joie du Seigneur, redire avec confiance. Parce que c'est vrai que la confiance, c'est ce qui est le plus attaqué. C'est ce qui est le plus attaqué parce que nous voulons tout maîtriser. Nous avons notre orgueil parfois qui nous pousse à avoir les rênes dans le sens du risque zéro et de tout voir, que tout soit sous notre contrôle. C'est pas comme ça la vie. C'est pas comme ça la vie, mes amis. Tout n'est pas sous notre contrôle. Qui peut dire que dans 10 minutes, il vivra encore? Je souhaite aux futures fiancées mariées une longue vie. Mais qui peut dire que dans 10 minutes, il n'aura pas un AVC ou ne traversera pas la route et se fera écraser par un chauffard? Personne ne peut le dire. Moi, je ne peux pas le dire. Voilà. Mais nous choisissons de faire confiance. Oui, frères et sœurs, être un homme et une femme de foi, comme Thomas et Marine veulent l'être, parce que je suis témoin de leur cheminement, vraiment dans une grande simplicité, mais en même temps dans une grande vérité, ils se sont préparés pour ce jour. Et ça a été pour moi, prêtre, une grande joie de les accompagner, de les accompagner encore, je l'espère. Eh bien, ils ont choisi de faire confiance. La confiance, c'est capital. C'est capital. C'est ce qui bâtit une vie. C'est ce qui fonde un foyer. C'est ce qui soutient une famille. Merci Thomas et Marine de nous le rappeler. Vous nous le rappelez à chacun d'entre nous. Puissions-nous aussi le mettre en pratique, là où nous sommes, dans notre vie spirituelle ou dans notre vie humaine. Puissions-nous aussi le mettre en pratique comme exercice de la joie dans notre vie spirituelle et dans notre vie humaine. Que nous ne nous laissions pas entraîner par le découragement, que nous ne laissions pas entraîner par la tristesse, l'aquabonisme, au fond une manière de vivre qui n'est pas évangélique, mais qu'au contraire, face à la parole de Dieu, parce que Dieu est là au cœur de nos vies, le Seigneur est proche, eh bien nous croyons qu'un engagement pour toujours, ça a du sens. Parce que c'est un engagement dans la confiance. Amen.